La cuisine sentait un peu le graillon, mais toute la vaisselle avait été rangée. Pas un bruit, toutes les lampes éteintes, pas même un ray de lumière sous les portes de leur chambre. Pfff, elle qui était prête à bouffer la poêle pour une fois. Elle frappa chez Franck, il écoutait de la musique. Elle se posta au bout de son lit et mit ses poings sur ses hanches.
Bah alors ?
On t'en a laissé quelques-unes, je te les flamberai demain.
Bah alors ? Tu me sautes pas ?
Très drôle.
Elle commença à se déshabiller.
Dis donc, mon petit père, tu vas pas t'en tirer comme ça ? Chose promise, orgasme dû.
Il s'était redressé pour allumer sa lampe pendant qu'elle jetait ses godasses n'importe où.
Mais qu'est-ce que tu fous là ? Où tu vas ?
Bah, je me tais ça.
Oh non !
Quoi ?
Mais pas comme ça, attends, moi ça fait des plombes que j'en rêve de ce moment.
Éteins la lumière.
Pourquoi ?
J'ai peur que t'aies plus envie de moi si tu me vois.
Mais Camille, putain, arrête, arrête !
Petite moue contrariée.
Tu veux plus ? Éteins la lumière.
Non.
Si.
Je veux pas que ça se passe comme ça entre nous.
Tu veux que ça se passe comment ? Tu veux m'emmener canoter au bois ?
Pardon ?
Faire un tour en barque et me dire des poèmes pendant que je laisse traîner ma main dans l'eau ?
Viens t'asseoir à côté de moi.
Éteins la lumière.
D'accord.
Éteins la musique.
Bon, c'est tout là ?
Oui.
C'est toi ?
Oui.
T'es bien là ?
Non.
Tiens, prends mes oreillers. Comment ça s'est passé, ton rendez-vous ?
Très bien.
Tu me racontes ?
De quoi ?
Bah, tout, je veux tout savoir ce soir. Tout.
Tu sais, si je commence, toi aussi tu vas te sentir obligé de me prendre dans tes bras après.
Ah merde. Tu t'es fait violer ?
Non plus.
Bon ben, je pourrais t'arranger ça si tu veux.
Merci, c'est gentil. Je commence par où ?
Franck imita la voix de Jacques Martin dans l'école des fans.
Tu viens d'où, ma petite fille ?
De Meudon.
De Meudon. Mais c'est très bien, ça. Et elle est où, ta maman ?
Elle mange des médicaments.
Ah bon ? Et ton papa, il est où, ton papa ?
Il est mort. Ah, je t'avais prévenu, mon gars. T'as des préservatifs, au moins ?
Mais secoue pas comme ça, Camille. Je suis un peu con, moi. Tu le sais bien. Il est mort, ton père ?
Oui.
Comment ?
Il est tombé dans le vide. Bon, je te le refais dans l'ordre. Bon, viens plus près parce que je veux pas que les autres entendent.
Il remonta la couette au-dessus de leur tête.
Vas-y. Personne peut nous voir, là.
Camille croisa les jambes, posa ses mains sur son ventre et entreprit un long voyage.
J'étais une petite fille sans histoire et très sage. Je mangeais pas beaucoup, mais je travaillais bien à l'école et je dessinais tout le temps. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Mon papa, il s'appelait Jean-Louis et ma maman Catherine. Je pensais qu'ils s'aimaient quand ils se sont rencontrés. Je sais pas, j'ai jamais osé leur demander. Mais quand je dessinais des chevaux ou le beau visage de Johnny Depp dans 21 Jump Street, là, ils ne s'aimaient déjà plus. Ça, j'en suis sûre, parce que mon papa ne vivait plus avec nous. Il ne revenait que le week-end pour me voir. C'était normal qu'il parte, et moi j'aurais fait pareil à sa place. D'ailleurs, le dimanche soir, j'aurais bien aimé partir avec lui. Et je l'aurais jamais fait, parce que ma maman se serait encore tuée. Ma maman s'est tuée plein de fois quand j'étais petite. Heureusement, c'est souvent quand j'étais pas là. Et puis après, comme j'avais grandi, il y avait moins de gêne, alors... Une fois, j'étais invitée chez une copine pour son anniversaire. Le soir, quand ma maman ne venait pas me chercher, une autre maman m'a déposée devant chez moi. Et quand je suis arrivée dans le salon, je l'ai vue, qui était morte. Sur la moquette. Les pompiers sont venus et je suis allée vivre chez la voisine pendant 10 jours. Après, mon papa, il lui a dit que si elle se tue encore une fois, il allait lui retirer ma garde. Alors elle a arrêté. Elle a juste continué de manger des médicaments. Mon papa m'avait dit qu'il était obligé de partir pour son travail, mais ma maman, elle m'a interdit de le croire. Tous les jours, elle me répétait que c'était un menteur, un salaud, qu'il avait une autre femme et une autre petite fille, à qui il faisait des câlins tous les soirs.
Elle reprit son timbre normal.
C'est la première fois que j'en parle. Tu vois, la tienne, elle t'a dézingué avant de te remettre dans un train. Et la mienne, elle me mangeait la tête tous les jours. Tous les jours. Quelquefois, elle était gentille quand même. Elle m'achetait des feutres et me répétait que j'étais son seul bonheur sur cette terre. Quand il venait, mon père s'enfermait dans le garage avec sa Jaguar et il écoutait des opéras. C'était une vieille Jaguar qui n'avait plus de roues. Mais c'était pas grave. On allait se promener quand même. Il disait « Je vous emmène sur la Riviera, mademoiselle ?» Et je m'asseyais à côté de lui. J'adorais cette voiture. « Vous avez pris votre maillot de bain ?» ajoutait-il. « Parfait. Et une robe du soir aussi. Nous irons sûrement au casino. N'oubliez pas votre renard argenté, les nuits sont fraîches à Monte-Carlo. » Ça sentait si bon à l'intérieur. L'odeur du cuir qui avait bien vécu. Tout était joli, je me souviens. Le cendrier en cristal, le miroir de courtoisie, les minuscules poignées pour descendre les vitres, l'intérieur de la boîte à gants, le bois. C'était comme un tapis volant. « Avec un peu de chance, nous arriverons avant la nuit », me promettait-il. Oui, c'était ce genre d'homme, mon papa. Un grand rêveur qui pouvait passer les vitesses d'une voiture sur cale pendant plusieurs heures et m'emmener au bout du monde dans un garage de banlieue. C'était un fou d'opéra aussi. Alors nous écoutions Don Carlos, la Traviata ou les Noces de Figaro pendant le voyage. Il me racontait les histoires, le chagrin de Madame Butterfly, l'amour impossible de Péléas et Mélisande. Quand il lui avoue « j'ai quelque chose à vous dire » et qu'il n'y arrive pas. Les histoires avec la comtesse et son chérubin qui se cachent tout le temps. Ou Alcina, la belle sorcière qui transformait ses prétendants en bêtes sauvages. J'avais toujours le droit de parler, sauf quand il levait la main. Et dans Alcina, il la levait souvent. Tornami a vegheggiar. J'arrive plus à l'écouter cet air-là. Il est trop gai. Mais le plus souvent, je me taisais. J'étais bien. Je pensais à l'autre petite fille. Elle n'avait pas tout ça, elle. C'était compliqué pour moi. Maintenant, évidemment, j'y vois plus clair. Un homme comme lui ne pouvait pas vivre avec une femme comme ma mère. Une femme qui débranchait la musique d'un coup sec quand c'était l'heure de passer à table et éclatait tous nos rêves comme des bulles de savon. Je ne l'ai jamais vue heureuse. Je ne l'ai jamais vue sourire. Mon père, par contre, était la gentillesse et la bonté même. Un peu comme Philibert. Trop gentil, en tout cas, pour assumer ça. L'idée d'être un salaud aux yeux de sa petite princesse. Alors un jour, il est revenu vivre avec nous. Il dormait dans son bureau et partait tous les week-ends. Plus d'escapades à Salzbourg ou à Rome dans la vieille Jaguar grise. Plus de casino et plus de pique-nique au bord de la mer. Et puis un matin, il devait être fatigué. J'imagine. Très, très fatigué. Et il est tombé du haut d'un immeuble.
Il est tombé ou il a sauté ?
C'était un homme élégant. Il est tombé. Il était assureur et marchait sur le toit d'une tour pour une histoire de conduit d'aération ou je sais quoi. Il a ouvert son dossier, n'a pas regardé où il posait les pieds.
C'est dingue ce truc. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je ne pense pas. Après, il y a eu l'enterrement et ma mère se retournait tout le temps pour voir si l'autre femme n'était pas dans le fond de l'église. Ensuite, elle a vendu la Jaguar et j'ai arrêté de parler.
Pendant combien de temps ?
Des mois.
Et après ? Je peux baisser le drap parce que j'étouffe, là.
Moi aussi, j'étouffais. Je suis devenue une adolescente ingrate et solitaire. J'avais mis le numéro de l'hôpital en mémoire dans le bigophone, mais j'en ai pas eu besoin. Elle s'était calmée. De suicidaire, elle était passée à déprimée. C'était un progrès. C'était plus calme. Une mort lui suffisait, j'imagine. Après, je n'avais qu'une idée en tête. Me tirer. Je suis partie une première fois vivre chez une copine quand j'avais 17 ans. Un soir, boum, ma mère, les flics devant la porte. Alors qu'elle savait très bien où j'étais, cette garce. C'était relou, comme disent les jeunes. Nous étions en train de dîner avec ses parents, on parlait de la guerre d'Algérie, je me souviens. Et là, toc toc, les flics. J'étais super mal à l'aise vis-à-vis de ces gens. Mais bon, je voulais pas d'histoire, alors je l'ai suivi. J'ai eu 18 ans le 17 février 1995, et le 16 à minuit une, je me suis cassée en fermant la porte tout doucement. J'ai eu mon bac et je suis rentrée aux Beaux-Arts. Quatrième sur 70 admis. J'avais fait un super beau dossier à partir des opéras de mon enfance. J'avais travaillé comme une bête et j'ai eu les félicitations du jury. À ce moment-là, je n'avais plus aucun contact avec ma mère et j'ai commencé à galérer. Parce que la vie était trop chère à Paris. Je vivais chez les uns, chez les autres. Je séchais beaucoup de cours. Je séchais la théorie, j'allais aux ateliers et puis j'ai déconné. Premièrement, je m'ennuyais un peu. Il faut dire que j'ai pas joué le jeu. Je me prenais pas au sérieux. Et du coup, j'étais pas prise au sérieux. J'étais pas une artiste avec un A majuscule. J'étais une bonne faiseuse. Celle à qui on conseille plutôt la place du tertre pour barbouiller du Monet et des petites danseuses. Et puis, je comprenais rien. Moi, j'aimais dessiner. Au lieu d'écouter le blabla des profs, je faisais leurs portraits. Et cette notion d'art plastique, de happening, d'installation, ça me gonflait. Je me rendais bien compte que je m'étais trompée de siècle. J'aurais voulu vivre au 16e ou au 17e et faire mon apprentissage dans l'atelier d'un grand maître. Préparer ses fonds, nettoyer ses pinceaux et lui broyer ses couleurs. Peut-être que j'étais pas assez mûre. Ou que je n'avais pas d'ego. Ou pas le feu sacré, tout simplement. Je sais pas. Deuxièmement, j'ai fait une mauvaise rencontre. Le truc cousu de fil blanc. La jeune bécasse avec sa boîte de pastel et ses chiffons bien pliés qui tombe amoureuse du génie méconnu. Le maudit, le prince des nuées, le veuf, le ténébreux, l'inconsolable. Une vraie image d'Épinal. Chevelu, torturé, génial, souffreteux, assoiffé. Père argentin et mère hongroise, mélange détonnant, culture éblouissante. Vivant dans un squat et n'attendant que ça. Une petite oie gaga pour lui préparer à manger pendant qu'il créait dans d'atroces souffrances. J'ai assuré. Je suis allée au marché Saint-Pierre, j'ai agrafé des mètres de tissu au mur pour donner un petit aspect coquet à notre chambrette. Et j'ai cherché du travail pour faire bouillir la marmite. Enfin la marmite. Le but à gaz, on va dire. J'ai laissé tomber l'école et je me suis assise en tailleur pour réfléchir à quel métier je pourrais bien faire. Et le pire, c'est que j'étais fière. Je le regardais peindre et je me sentais importante. J'étais la sœur, la muse, la grande femme derrière le grand homme, celle qui remontait les cubis, nourrissait les disciples et vidait les cendriers. J'étais fière et je suis devenue gardienne de musée. Super maligne, non ? Bon, là je te passe les collègues parce que j'ai touché du doigt toute la grandeur de la fonction publique, mais je m'en foutais, à vrai dire. J'étais bien. Finalement, j'y étais dans l'atelier de mon grand maître. L'étoile était sèche depuis longtemps, mais j'ai sûrement plus appris là que dans toutes les écoles du monde. Et comme je dormais pas beaucoup à cette époque, je pouvais comater tranquille. Je me réchauffais.
Pourquoi tu restes avec lui ?
Parce que je l'aimais. J'admirais son travail aussi. Il était libre, décomplexé, sûr de lui, exigeant. Tout mon contraire. Il aurait préféré crever la bouche ouverte plutôt que d'accepter le moindre compromis. J'avais à peine 20 ans. C'est moi qui l'entretenais et je le trouvais admirable.
T'étais godiche ?
Oui. Non. Après l'adolescence que je venais de me cogner, c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Il y avait tout le temps du monde. On parlait que d'art, que de peinture. On était ridicule, oui, mais intègre aussi. Après, ça s'est dégradé. Mon amoureux me trompait, il se tapait des premières années, et quand on a fait la paix, il m'a avoué qu'il se droguait. Oh, un peu, hein, juste comme ça, pour la beauté du geste. Et là, j'ai pas du tout envie d'en parler.
Pourquoi ?
Parce que c'est devenu trop triste. La rapidité avec laquelle cette merde te met à genoux, c'est hallucinant. La beauté du geste, mon cul. J'ai tenu encore quelques mois et... je suis retournée vivre chez ma mère. Elle ne m'avait pas vue depuis presque 3 ans. Elle a ouvert la porte et m'a dit « Je te préviens, il n'y a rien à manger. » J'ai fondu en larmes et je suis restée couchée pendant 2 mois. Là, elle a été clean pour une fois. Elle avait ce qu'il faut pour me soigner, tu me diras. Et quand je me suis relevée, je suis retournée travailler. À cette époque, je me nourrissais que de bouillie et de petits pots. Allô, docteur Freud ? Après le cinémascope Dolby Stéréo, son, lumière et émotion de tout genre, j'ai repris une vie en minuscule et en noir et blanc. Je regardais la télé et j'avais toujours le vertige au bord des quais.
T'y as pensé ?
Oui. J'imaginais mon fantôme monter vers le ciel et mon papa qui m'ouvrait les bras en riant. Ah, vous voilà enfin, mademoiselle. Vous allez voir, c'est encore plus joli que la Riviera par ici.
Non, pleure pas.
Si, j'ai envie.
Bon, alors pleure.
C'est bien, t'es pas compliqué, toi. Où j'en étais ?
Le vertige.
Ah oui, le vertige. Honnêtement, il m'aurait pas fallu beaucoup plus qu'une pichenette dans le dos pour me faire basculer. Mais au lieu de ça, le hasard portait des gants noirs en chevreau très doux et m'a tapé sur l'épaule un matin. Ce jour-là, je m'amusais avec les personnages de Watteau. J'étais pliée en deux sur ma chaise quand un homme est passé derrière moi. Je le voyais souvent. Il était toujours en train de tourner autour des étudiants et de regarder leurs dessins en douce. Je pensais que c'était un dragueur. J'avais des doutes sur sa sexualité. Je le regardais tchatcher avec la jeunesse flattée et j'admirais son allure. Il avait toujours des manteaux superbes, très longs, des costumes classieux, des foulards et des écharpes en soie. C'était ma petite récré. J'étais donc recroquevillée sur mon carnet et je ne voyais que ses magnifiques chaussures, très fines et impeccablement cirées. Puis-je vous poser une question indiscrète, mademoiselle ? Avez-vous une moralité à toute épreuve ? Je me demandais bien où il voulait en venir. À l'hôtel ? Mais bon. Avais-je une moralité à toute épreuve ? Non, ai-je répondu. Et à cause de cette petite répartie crâne, je suis repartie dans un autre merdier. Incommensurable cette fois.
Un quoi ?
Un merdier sans nom.
Qu'est-ce que t'as fait ?
La même chose qu'avant. Mais au lieu de crécher dans un squat et d'être la boniche d'un furieux, j'ai vécu dans les plus grands hôtels d'Europe et je suis devenue celle d'un escroc.
Tu t'es...
prostituée ? Non. Quoique...
Qu'est-ce que tu faisais ?
Des faux.
Des faux billets ?
Non, des faux dessins. Et le pire, c'est que ça m'amusait en plus. Enfin, au début. Après, ça a tourné limite esclavagisme, cette petite blague, mais... Au début, c'était très rigolo. Pour une fois que je servais à quelque chose. Alors je te dis, j'ai vécu dans un luxe incroyable. Rien n'était trop beau pour moi. J'avais froid, il m'offrait les meilleurs cachemires. Tu vois le gros pull bleu avec une capuche que je mets tout le temps ?
Ouais.
11 000 balles.
Non.
Si. Et j'en avais une dizaine comme celui-là. J'avais faim ? Poi poi, room service et homard à gogo. J'avais soif ? Maquet champagne, je m'ennuyais, spectacle, shopping, musique. Tout ce que tu veux, tu le dis à Vittorio. La seule chose que je n'avais pas le droit de dire, c'est « j'arrête ». Là, il devenait mauvais, le beau Vittorio. Si tu pars, tu plonges. Mais pourquoi je serais partie ? J'étais choyée, je m'amusais. Je faisais ce que j'aimais, j'allais dans tous les musées dont j'avais rêvé. Je faisais des rencontres. La nuit, je me trompais de chambre. J'en suis pas sûre, mais je crois même que j'ai couché avec Jeremy Irons.
Qui c'est ?
Oh, t'es désespérant, toi. Bon, peu importe. Je lisais, j'écoutais de la musique, je gagnais de l'argent. Avec le recul, je me dis que c'était une autre forme de suicide. Plus confortable. Je me suis coupée de la vie et du peu de gens qui m'aimaient. De Pierre et Mathilde Kessler, notamment, qui m'en ont voulu à mort. De mes anciens petits camarades. De la réalité. La moralité, du droit chemin, de moi-même.
Tu bossais tout le temps ?
Tout le temps. J'ai pas tant produit que ça, mais il fallait refaire la même chose des milliers de fois à cause des problèmes techniques. La patine, le support et tout ça. Finalement, le dessin, c'était peanuts. C'était son vieillissement qui était compliqué. Je travaillais avec Yann, un Hollandais qui nous fournissait un vieux papier. C'était son métier. Parcourir le monde et revenir avec des rouleaux. Il avait un côté petit chimiste fou et cherchait sans relâche un moyen de faire du vieux avec du neuf. Je ne l'ai jamais entendu prononcer la moindre parole. Un type fascinant. Et puis j'ai perdu la notion du temps. D'une certaine manière, je me suis laissée ensuquer dans cette non-vie. Ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais j'étais devenue une épave. Une épave chic. Le gosier en pente, des chemises sur mesure et un dégoût de ma petite personne. Je sais pas comment tout ça se serait terminé si Léonard ne m'avait pas sauvée.
Léonard qui ?
Léonard de Vinci. Là, je me suis tout de suite cabrée. Tant qu'on se tenait au petit maître, aux esquisses d'esquisses, aux croquis de croquis ou au repentir de repentir, on pouvait faire illusion auprès des marchands peu scrupuleux. Mais là, c'était n'importe quoi. Je l'ai dit, mais on m'a pas écoutée. Vittorio était devenu trop gourmand. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait de son fric, mais plus il en palpait et plus il en manquait. Il devait avoir ses faiblesses, lui aussi. Alors j'ai fermé ma gueule. C'était pas mon problème, après tout. Je suis retournée au Louvre, au département des arts graphiques, où j'ai pu accéder à certains documents et je les ai appris par cœur. Vittorio voulait une petite chose. Tu vois cette étude-là? Tout y inspire d'elle, mais cette personnage-là, tout me les garde. À cette époque, on vivait déjà plus à l'hôtel, mais dans un grand appartement meublé. Je me suis exécutée et j'ai attendu. Il était de plus en plus nerveux. Il passait des heures au téléphone, usait la moquette et crachait sur la madone. Un matin, il est entré dans ma chambre comme un fou. Et j'ai droit partir. Mais toi, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Tu ne sors pas tant que je te le dis pas. Tu m'as compris? Tu ne bouges pas. Le soir, j'ai reçu un appel d'un autre mec que je connaissais pas. Brûle tout. Et il a raccroché. Bon, j'ai ramassé des tas de mensonges et je les ai détruits dans l'évier. Et j'ai attendu encore. Plusieurs jours. Je n'osais pas sortir. Je n'osais pas regarder par la fenêtre. J'étais devenue complètement parano. Mais au bout d'une semaine, je suis partie. J'avais faim, j'avais envie de fumer, j'avais plus rien à perdre. Je suis retournée à Meudon à pied et j'ai trouvé une maison fermée avec un panneau à vendre sur la grille. Est-ce qu'elle était morte? J'ai escaladé le mur et dormi dans le garage. Je suis revenue à Paris. Tant que je marchais, je tenais debout. J'ai zoné autour de l'immeuble au cas où Vittorio serait revenu. Je n'avais pas de fric. Pas de boussole, plus de repères, rien. J'ai passé encore 2 nuits dehors dans mon cachemire à 10 000 boules. J'ai demandé des clopes et je me suis fait piquer mon manteau. 3e soir, j'ai sonné chez Pierre et Mathilde. Et je me suis écroulée devant leur porte. Ils m'ont retapé, ils m'ont installée ici au 7e. 1 semaine plus tard, j'étais encore assise par terre à me demander quel métier je pourrais bien faire. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais plus jamais dessiner de ma vie. Je n'étais pas non plus prête à retourner dans le monde. Les gens me faisaient peur. Alors je suis devenue technicienne de surface de nuit. J'ai vécu comme ça, un peu plus d'1 an. Entre-temps, j'ai retrouvé ma mère. Elle ne m'a pas posé de questions. J'ai jamais su si c'était de l'indifférence ou simplement de la discrétion. J'ai pas creusé. Je pouvais pas me le permettre. J'avais plus qu'elle. Quelle ironie. J'avais tout fait pour la fuir et voilà. Retour à la case départ, les rêves en moins. J'ai vivoté. Je m'interdisais de boire seule et cherchais une issue de secours dans mon 10 mètres carrés. Et puis je suis tombée malade au début de l'hiver. Et Philibert m'a portée dans les escaliers jusque dans la chambre d'à côté. La suite, tu la connais.
Long silence.
Eh ben, tu parles d'une vie. C'est dingue. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Elle dormait. Il remonta la couette jusque sous son nez, prit ses affaires et sortit sur la pointe des pieds. Maintenant qu'il la connaissait, il n'osait plus s'allonger à côté d'elle. En plus, elle prenait toute la place. Toute la place.